Bonjour frères et sœurs, l'écrivain américain George Barr McCutcheon est né le 26 juillet en 1866, il y a 150 ans. Il est l'auteur d'une quarantaine de romans populaires à succès durant le premier quart du XXe siècle, notamment Brewster's Millions, adapté à plusieurs reprises au cinéma. Ce roman et ses adaptations sont basées sur une histoire d'un jeune homme qui devient l'héritier d'un grand somme d'argent. Mais sous des conditions perturbantes. Le protagoniste, M. Brewster, est obligé de dépenser chaque centime de ce grand somme d'argent dans peu de temps. Ces dépenses doivent respecter plusieurs règles définies par l'exécuteur testamentaire. Si Brewster arrive à tout dépenser sous ces conditions, il aura le droit d'hériter encore plus d'argent sans condition de dépense. Et s'il n'est pas capable de tout dépenser, il perd tout. Une des conditions les plus contraignantes, c'est le fait que Brewster ne peut pas dire un mot par rapport à ces conditions. Alors ses amis et les médias pensent que Brewster agit comme une personne dépensière. Le temps s'accélère vers la date butée et Brewster fait tout ce qu'il peut pour réussir. Il dépense beaucoup d'argent. Est-ce qu'il sera capable de dépenser tout l'argent ou pas? Nous y reviendrons tout à l'heure. Cette histoire soulève une question intéressante concernant la valeur de l'argent. Mais il y a une autre question en arrière-plan. Cette question, c'est comment passons-nous notre temps? Comment passons-nous notre temps? Et pour les chrétiens, c'est aussi une question de comment vivre comme chrétien et bien passer notre temps. L'apôtre Paul a écrit un avertissement aux Éphésiens qui, par extension, nous rappelle de considérer la valeur du temps. Rapportons-nous aux Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, et le verset 15 à 16. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le mot grec qui a été traduit au verset 16, le temps, c'est en fait le mot kairos. Contrairement au temps chronos, un autre mot grec utilisé dans la Bible, qui est mesuré par les horloges, le temps kairos est un temps métaphysique. Il ne se mesure pas. Il est qualitatif, immatériel et il se ressent. C'est une période, un temps fixé où Dieu agit de manière spécifique dans la vie d'un homme. Donc, l'expression au verset 16 d'Éphésiens chapitre 5 veut dire plutôt, au lieu de dire racheter le temps, on peut comprendre l'idée de faire au mieux avec chaque opportunité. C'est ça le sens de cette expression de l'apôtre Paul. L'appel de Dieu est une opportunité extraordinaire. Quand Dieu appelle une personne à comprendre sa vérité et à se repentir, celle-ci doit répondre à cet appel en se repentant et en se faisant baptiser afin d'être justifié par Dieu, afin que ses péchés passés soient tous effacés. À partir de là, ce n'est pas encore fini. À partir de là, nous sommes appelés à nous laisser guider par l'Esprit Saint, dans l'obéissance à Dieu pour développer le caractère de notre Père Céleste, qui nous prépare, en fait, pour la prochaine étape dans son plan de salut et dans notre vie spirituelle, l'étape de la glorification. Cette dernière équivaut à recevoir un nouveau corps spirituel et glorieux, et aussi de recevoir la vie éternelle. Quel dommage serait-il de rater une telle opportunité, y compris dans cette opportunité, et avec cette opportunité, il y en a bien d'autres, car la voie de Dieu implique un changement de nos pratiques et de notre façon de raisonner, de penser, d'agir. Donc, il y a d'autres exemples d'opportunités ratées. Par exemple, l'opportunité d'apprendre la vérité. Si on ne répond pas à l'appel de Dieu, on dit non à cette opportunité. D'autres opportunités, par exemple, l'opportunité de servir, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans la communauté, mais de servir Dieu, et aussi l'opportunité de faire le bien avec nos actions, l'opportunité de pardonner, l'opportunité d'aimer les uns et les autres, l'opportunité de se repentir, de changer de direction, de suivre la voie de Dieu, l'opportunité de donner une offrande à Dieu, avec nos membres physiques et aussi avec nos revenus et aussi avec notre corps entier, notre façon de servir Dieu au lieu de servir le Dieu de ce monde. Il y a aussi une opportunité de remercier Dieu. On peut rater ces opportunités si on n'est pas prêt à répondre. Et si, en général, on ne répond pas à l'appel de Dieu. Face à ces opportunités, on dit souvent, il y a bien de gens qui disent, « Ah, ben c'est trop difficile à suivre la voie divine maintenant, je ne suis pas encore prêt. J'ai le temps de faire ça plus tard, de faire un bon choix plus tard. Je ferai mieux la prochaine fois, mais maintenant je fais ce que je veux. » Je ne suis pas encore prêt à répondre à telle ou telle opportunité. J'ai d'autres priorités pour le moment. Voilà toute une liste d'excuses pour ne pas répondre à des opportunités. Quand on est jeune, on a l'impression que le temps passe lentement, que le temps est presque illimité. On est souvent en attente de quelque chose. On a envie de faire certaines choses qu'on ne peut pas encore faire. Acheter une voiture, par exemple. Avoir son baccalauréat. Travailler pour gagner un salaire. Se marier, avoir des enfants, etc. L'attente, même si elle est difficile, fait partie de la jeunesse. On entend souvent chez les jeunes, « Ah, que le temps passe plus vite. J'ai tellement envie de faire ça ou de faire ça. » Tout de suite, je ne peux plus attendre. Mais chez les adultes, il y a bien des moments aussi dans la vie où l'attente est également difficile. Ce sont des moments dans lesquels le temps passe lentement, les moments où nous ne sommes pas contents, les moments que nous attendons un changement, par exemple. Dans les périodes d'attente, on risque de s'ennuyer, on risque de se distraire. On peut perdre la motivation, on peut même gaspiller le temps, qui est très précieux. On risque de craindre le monde autour de nous, de ne pas oser de faire quoi que ce soit. Rapportons-nous aux Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, et commençons avec le verset 18. Le chrétien attend plusieurs choses, en fait, mais ici Paul nous donne un exemple, beaucoup d'encouragement à ce que nous attendons. Romains 8 et verset 18, nous allons lire du verset 18 jusqu'au verset 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons et nous-mêmes, en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà quelques versets qui examinent le sujet d'attendre quelque chose qui n'est même pas comparable à la vie autour de nous aujourd'hui. Le chrétien, vis-à-vis le retour de Jésus-Christ, vis-à-vis le salut, par exemple la fin des souffrances, le chrétien est en phase d'attente. Nous attendons une cité qui est pour l'instant dans les cieux, qui est à venir. Philippiens chapitre 3 et verset 20. Philippiens chapitre 3 et le verset 20. Encore quelque chose que nous attendons. Mais on va revenir tout à l'heure. C'est comment attendons-nous ces choses? Quel est notre rôle en attente, dans cette phase d'attente? Philippiens chapitre 3 et le verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Notamment, est dans les cieux. Cette cité est à venir aussi. Je continue au verset 20. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà un exemple de nos attentes en tant que chrétiens. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 et le verset 28. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà un autre exemple de notre attente en tant que chrétien. Nous attendons le retour de notre roi des rois. Et après 1000 ans de paix, il y aura 1000 ans de paix. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Nous voyons ici que ça vaut le coup d'attendre, parce que ce que nous attendons, comme l'apôtre Paul a expliqué, n'est pas comparable à ce qu'il y a autour de nous aujourd'hui. Apocalypse, chapitre 20, explique une période de paix, une période que ce monde n'a jamais connue, qui est à venir après le retour de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 20 et verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous attendons cette période de 1000 ans qui est à venir, une période que nous n'arrivons pas vraiment à imaginer, une période pleine de paix, où il n'y aura pas les déceptions et les souffrances de ce monde autour de nous aujourd'hui. Donc, vu que le retour de Jésus-Christ est très proche, ce que nous attendons est très proche, est à venir bientôt, et vu que la vie physique est relativement courte, qu'est-ce qu'on doit faire afin de racheter le temps, afin de faire au mieux avec chaque opportunité? nous voulons faire au mieux de chaque opportunité dans la vie chrétienne. Dans le cas de Brewster, notre ami Brewster, il n'avait qu'une certaine courte période pour agir. Il nageait souvent à contre-courant de ses conseillers sans pouvoir leur expliquer ses actions. Il ne pouvait pas dire qu'il dépensait beaucoup d'argent pour avoir quelque chose après. Ses ennemis complotaient contre lui pour l'empêcher de réussir. Il fallait qu'il cherche tout le temps comment mieux dépenser son argent et comment surmonter ses épreuves. Je crois qu'il y a une parallèle ici dans la vie chrétienne. Nous, en tant que chrétiens, sommes obligés, nous avons le rôle de chercher à bien utiliser, à bien dépenser le temps que Dieu nous accorde. Brewster ne pouvait pas simplement attendre son héritage, il devait faire sa part pour l'avoir. Eh bien, c'est notre rôle aussi. Nous ne sommes pas là pour simplement attendre notre héritage qui est aujourd'hui aux cieux, mais nous sommes là pour faire quelque chose avec le temps que Dieu nous accorde. Donc, premier point pour bien répondre à cette occasion, cette opportunité à bien dépenser notre temps, à racheter le temps, comme l'apôtre Paul a dit. Premier point, c'est vivons dans le moment présent. Vivons dans le moment présent. Nous avons déjà lu quelques versets qui parlent de cet avenir magnifique, l'avenir qui est complètement différent par rapport au monde qui est autour de nous. Mais aujourd'hui, nous avons un rôle à vivre dans le moment présent. Vivre dans le moment présent. Donc, vivons dans le moment présent. D'après un article du revue américain Psychology Today, intitulé « L'art du maintenant, 6 étapes pour vivre dans le moment présent ». D'après cet article, si on ne fait pas attention, on risque de gaspiller le temps en faisant autre chose que d'être productif avec ce temps. Je cite de cet article. La vie se déroule dans le présent, mais souvent nous laissons filer le présent inaperçu, sans le saisir, et nous gaspillons les précieuses secondes de la vie en s'inquiétant de l'avenir et en ruminant le passé. Et puis plus loin dans l'article, je cite, « Tout le monde est d'accord qu'il est important de vivre dans le moment, mais le problème c'est comment faire », a dit Ellen Langay, psychologue à l'université de Harvard et l'auteur du livre « Pleine conscience », « Mindfulness » en anglais. Fin de citation. Pour le chrétien, l'idée de vivre dans le moment n'est pas loin de ce principe de racheter le temps, comme l'apôtre Paul a dit. Mais comment faire? Comment faire pour vivre dans le moment présent? Jésus-Christ lui-même nous donne de l'encouragement, une exhortation, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 33. Matthieu 6 et verset 33. Un verset très connu, mais considérons aujourd'hui ce verset dans le cadre de notre emploi de temps, de notre façon de dépenser ce temps qui est très précieux à nous. Matthieu 6 et verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » On voit ici que le chrétien n'est pas appelé à l'inactivité. Autrement dit, Jésus aurait peut-être dit qu'il fallait simplement attendre, mais il ne l'a pas dit comme ça. Il a encourager ses disciples à faire quelque chose, à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le verbe « chercher » qui vient du mot grec « zetéo » qui a été traduit en mot « chercher » est un verbe d'action qui veut dire « chercher dans le but de trouver, rechercher, désirer, demander. Ce n'est pas simplement une recherche avec pas beaucoup d'énergie. C'est en fait une recherche. Le mot zeteo implique une volonté plus l'action. Nous pouvons des fois chercher dans les idées en faisant rien du tout. Mais le mot ici zeteo veut dire qu'il faut avoir de la volonté, mais en plus il faut réagir, il faut de l'action. Le rôle du chrétien va plus loin que d'attendre le retour de Jésus-Christ, bien sûr. En attendant, autrement dit, en cherchant premièrement la volonté de Dieu et le royaume et la justice de Dieu, le chrétien fait quelque chose de très important. Il fait, en fait, son mieux aujourd'hui à se préparer pour l'avenir. Quel avenir? L'avenir que nous venons de lire, dont nous venons de lire dans les versets en Apocalypse et d'autres versets dans le Nouveau Testament, c'est notre avenir pour le chrétien. Et donc, à nous de faire notre mieux, à nous préparer aujourd'hui pour l'avenir. Ce sont nos actions dès maintenant, aujourd'hui, qui détermineront notre caractère. Dieu nous révèle la vérité aujourd'hui. Voilà une opportunité à ne pas gaspiller. Si nous connaissons la vérité, nous avons la responsabilité d'agir. Rapportons-nous à Matthieu 13, l'évangile de Matthieu, chapitre 13, et verset 45. Nous avons noté Matthieu 6, 33, et maintenant au versets 45 et 46 de Matthieu 13, nous avons un autre passage ici qui explique une certaine façon de chercher. Matthieu 13 et versets 45 et 46, parlant ici du royaume de Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Je voulais souligner ici que ce marchand cherchait ce perle. En fait, il cherchait, il passait son temps à chercher de belles perles. Mais quand il a trouvé la perle de grand prix, il a tout vendu pour l'acheter. C'est cette recherche, ce type de recherche dont on a parlé au Matthieu 6 et verset 33. C'est une recherche active, une recherche forcée, une recherche profonde. Et c'est une recherche qui, quand nous avons trouvé la vérité, ou même une petite compréhension dans la vérité, il faut qu'on réagisse là-dessus. Ce n'est pas une recherche pour simplement avoir une connaissance ou beaucoup de connaissances. C'est une recherche qui, en fait, nous mène à changer, à réagir, à vivre autrement. 2 Corinthiens chapitre 6 et versets 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Notons au verset 1 qu'il ne faut pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire encore une fois que si nous avons reçu quelque chose de Dieu, il faut qu'on cherche à bien l'employer, à bien la mettre en utilisation. Le chrétien est appelé à faire un effort, à travailler. L'apôtre Paul illustre ici sa pensée par une citation d'Ésaïe 49 et verset 8. il désirait ardemment que les Corinthiens acceptent la vérité à cause du rôle qu'ils avaient à jouer dans le plan du salut. Avec l'expression « maintenant le jour du salut », Paul applique les paroles d'Ésaïe à la situation dans laquelle il se trouve. Il est un temps ou une opportunité dans le plan de Dieu où Dieu appelle ceux qui deviendront ses prémices. Pour nous, le temps, c'est aujourd'hui. Il est en train de préparer son Église pour l'avenir. Jésus-Christ lui-même a vécu les limitations du corps humain. Il était conscient de son rôle à se présenter comme sacrifice ultime suite à une vie parfaite sans péché. Jean chapitre 9. Il savait que son temps était limité. Et dans l'évangile de Jean chapitre 9, nous voyons ses paroles par rapport à ce sujet. Jean chapitre 9 et versets 4 à 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. N'est-ce pas un verset ou deux qui, un passage très applicable à propos pour nous en tant que chrétiens? Nous avons notre jour, notre vie physique, à réagir, à faire la volonté de Dieu. Nous avons des œuvres à faire en faisant partie de l'Église. Afin de bien vivre dans le moment présent, afin de racheter le temps, le chrétien se prépare en avance à faire la volonté de Dieu à tout moment. Il offre sa vie et son corps à Dieu comme instrument de justice. Romains chapitre 6 et versets 12 à 13. Romains 6 et versets 12 à 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Nous avons un choix à faire, et derrière ce choix, c'est réagir ou se repentir. Il existe des implications à ne pas négliger. Quand on se répand, on change son comportement. Ceci peut inquiéter la famille. Les gens autour de nous peuvent voir que quelque chose a changé quand nous nous décidons de donner nous-mêmes à Dieu, à se dévouer à Dieu. Les parents, le conjoint, les enfants peuvent voir ces changements. Et eux aussi peuvent s'inquiéter que quelque chose a changé dans notre comportement. C'est peut-être un peu déstabilisant pour eux. La vie devient tout de suite compliquée des fois, quand nos priorités changent, quand nous nous décidons à mettre en tout premier notre recherche pour le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donc, les gens autour de nous, même nos proches, peuvent voir ces changements. Mais Jésus nous offre de l'encouragement pour ceux qui changent et qui sont un peu sous pression par les proches. Luc 18 et versets 28 à 30. L'évangile de Luc et verset 18. Quelques versets très encourageants pour ceux qui sont en train de changer leur comportement, changer la vie, changer les priorités. Luc 18 et versets 28 à 30. Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » On voit ici que Pierre parle du fait que les apôtres, que les disciples, ont tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Verset 29, « Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Pendant notre attente, ce n'est pas toujours facile à vivre comme chrétien, à suivre la volonté de Dieu en face à ce monde qui est autour de nous. Des fois, c'est difficile à montrer un bon exemple, à ne pas conformer au monde qui est autour de nous. Il y a des choses, il y a des pensées et des actions qui gaspillent le temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter à ces choses. Restons concentrés sur notre avenir, mais faisons aussi, aujourd'hui, les actes, les œuvres, la volonté de Dieu. 1 Pierre 2, verset 1. Il y a quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est nécessaire. À chaque fois que nous faisons le bon choix, que nous mettons d'abord la priorité en priorité numéro 1, à suivre la volonté de Dieu, à chercher le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui est en cours et c'est une œuvre qui se passe à l'intérieur de nous. 1 Pierre 2 et versets 1 à 3. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, les prémices, ceux qui sont appelés d'être les prémices, qui sont toujours en développement, nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous sommes en train de croître pour le but du salut, croître pour l'avenir que nous attendons tous. Donc vivons dans le moment présent afin de préparer l'avenir. Point numéro 2, semez aujourd'hui afin de préparer la récolte de demain. Semez aujourd'hui afin de préparer la récolte de demain. On ne peut pas récolter à n'importe quel moment. Dans l'agriculture, il y a des périodes dans l'année, des saisons, même des mois ou des certaines périodes où il faut semer, sinon la semence ne va pas produire. Il y a aussi des périodes dans l'année pour récolter, et si la récolte ne se passe pas, tout ce que nous avons à récolter sera perdu. On ne peut pas récolter non plus tout le temps. Ce n'est pas toujours la période de la récolte. Et ce n'est pas toujours la période de semer. Quand j'habitais en Normandie, j'aimais toujours lire l'almanach. Et j'ai vu cette confirmation que ceux qui étaient les fermiers lisaient l'almanach et traçaient les meilleurs moments dans l'année pour semer. D'où l'importance des almanachs à définir ces choses, à communiquer les bons moments pour le bénéfice des autres. Dans la vie chrétienne, nous avons presque tous les jours, spirituellement, l'occasion de semer. Nous avons presque tous les jours l'occasion de semer. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Et ce n'est pas seulement le fait de prêcher l'Évangile avec des revues, avec des publications, mais c'est aussi quelque chose pour l'individu, pour le chrétien à faire, le fait de semer tous les jours pour le moisson qui est dans l'avenir. Galates chapitre 6 et verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. La métaphore de semer et de moissonner est souvent employée pour illustrer l'importance à faire le bien dans la vie quotidienne, saisir cette opportunité. Il y a d'autres métaphores. Cette même métaphore est utilisée dans la culture commune. Par exemple, une citation qui dit, un dicton, « Qui sème la gentillesse récolte l'amour ». Ou une autre citation de Benjamin Franklin. Si vous voulez récolter les louanges, vous devez semer les graines. Mots gentils et actions utiles. Et une troisième citation de Monsieur Robert Louis Stevenson. Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. Donc, semer et récolter nécessite du travail. Et c'est un travail quotidien, un travail qui est toujours devant nous. Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11 et verset 4 à 6. C'est notre choix. Nous avons quand même un choix. De soit travailler, soit semer, faire ce que nous avons à faire, ou de laisser passer le temps devant nous. Ecclésiaste, chapitre 11 et verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. En fait, dans ces quelques versets, il y a plusieurs sujets qui sont soulignés. Un sujet, le fait que c'est une œuvre que Dieu a faite, et que l'homme ne peut pas comprendre toute la création, les miracles de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Aussi, le sujet du fait que nous ne savons pas toujours ce qui réussira. Et aussi, le fait de ne pas simplement observer le vent. Donc, plusieurs sujets ici qu'il faut quand même... Il faut prendre note de ces sujets dans le cadre de notre utilisation, de notre fait de racheter le temps. L'homme peut passer sa vie en observant le vent, dormir toute la journée, se distraire. Je trouve intéressant l'association dans ces versets ailleurs dans la Bible entre la création que Dieu a faite et l'œuvre, le fait que Dieu a œuvré. Il a travaillé, a créé. C'est quand même quelque chose pour nous à méditer. Le fait que Dieu a œuvré pendant 6 jours et puis il s'est reposé le 7e jour. Pour notre exemple, Dieu n'avait pas besoin de se reposer, bien sûr, mais c'était pour notre exemple. Le sabbat fut créé pour l'homme. Mais Dieu nous a montré l'exemple de travailler 6 jours par semaine, d'utiliser notre temps, de profiter de chaque semaine pour travailler. Au verset 6 d'Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 6, on voit qu'avec la semence, il y a aussi l'élément de l'inconnu. On sème sans savoir exactement ce qui va se produire. Et ce principe est vrai et valable dans la vie quotidienne aussi, avec les bonnes actions, le fait de s'aimer avec le bon, avec le bien. Nous ne savons pas toujours exactement ce qui va se produire, Des fois, il y a un résultat, des fois, pas du tout. La jeunesse n'est pas du temps perdu. Il faut semer le matin. C'est ce que nous avons lu dans ces versets. Semer le matin, on peut dire aussi semer pendant la jeunesse. Ne passez pas la jeunesse à faire rien, à observer le vent. Quand la jeunesse est passée, elle semble d'avoir très vite passé. Je sais que c'est peut-être difficile à imaginer pour les jeunes, mais une fois passée, la jeunesse semble comme le vent passer très vite. Mais retournons ici, rapportons-nous encore une fois aux Ecclésiastes chapitre 11. Ecclésiastes chapitre 11 et verset 9 à 10. Nous voyons ici que ces versets sont pour le jeune homme. Ecclésiastes 11 et verset 9 à 10. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie, cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans ses voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Attention, ici il y a un changement de cette idée. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc il n'y a pas un moment de jeunesse, un moment dans la vie, comme par exemple la jeunesse, où Dieu n'est pas en train de nous juger, de regarder nos actions. La jeunesse, on ne peut pas faire n'importe quoi dans la jeunesse. Dieu nous appelle en jugement pour ses actions aussi. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Autrement dit, la jeunesse est vite passée. Le travail dans la jeunesse, c'est quoi? En général, les jeunes font les études afin de préparer l'avenir. Récemment, j'ai eu l'occasion de parler avec un groupe de jeunes. Parmi les adultes dans ce groupe, il y avait un médecin. On lui a demandé comment il a fait pour réussir ses études. Il a répondu qu'il s'est dévoué à étudier assidûment pendant plusieurs heures par jour. Il a encouragé les jeunes à profiter de chaque jour pour faire les devoirs, pour se préparer pour les examens, etc. Et il a dit autre chose, une chose très intéressante. Il a dit que on entend de temps en temps l'idée fausse que ceux qui font des grandes études n'étudient jamais. Il nous a assuré que ce n'est pas vrai et que même les gens les plus intelligents sont obligés à faire les devoirs. Donc le principe de travailler, de se mettre au sujet. Le principe de semer et de moissonner est pratique aussi dans les finances. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est utile pour les études, pour la préparation de l'avenir, mais aussi dans les finances. Il n'est pas toujours facile à vivre, bien sûr, avec un petit budget, mais la dîme et les offrandes sont une façon de semer. Deutéronome, chapitre 26, versets 12 à 13. Deutéronome, chapitre 26, versets 12 à 13. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassiseront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, « J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Selon tous les ordres que tu m'as prescrits, je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. » Le verset 13 nous rappelle que ce n'est pas seulement la dîme qui a de l'importance aux yeux de l'Éternel. Cette troisième dîme de nos revenus qui se fait tous les trois ans, dans la troisième année, cette troisième dîme est dédié aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Donc, même dans le système des dîmes, nous avons l'occasion de semer avec notre revenu que nous pouvons dédier ou ôter de nos revenus pour donner à Dieu et au service des autres. C'est le fait de consacrer nos biens à quelqu'un d'autre. C'est un fait, une façon de semer aussi. Nous ne savons pas toujours ce qui va se produire quand nous donnons dans cette façon, quand nous donnons à ceux qui sont dans le besoin. Mais Dieu voit ces actions, Dieu voit le cœur derrière ces actions, et c'est quelque chose que nous devons faire. Semer du vent, ou observer le vent, veut dire soit rien faire du tout, soit de faire des choses qui n'ont pas de retour d'investissement. Osée chapitre 8 et verset 7, nous n'allons pas y reporter, mais Osée chapitre 8 et verset 7, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un effet de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Si on sème le vent, si on ne fait rien, ou si on passe le temps à faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, nous n'aurons pas un bon moisson. Nous n'allons pas moissonner quelque chose de bien. Ici, l'exemple en Osée, c'est le moisson de la tempête, en fait la ruine, qui est moissonnée par le fait de semer le vent, de faire rien du tout. Par exemple, si on dépense de l'argent en excès, comme notre ami M. Brewster a dû faire pour devenir héritier des richesses, c'est une façon de semer le vent. Nous passons du temps à faire quelque chose qui n'apporte rien. Donc, faisons attention à notre façon d'utiliser de l'argent. Avec de l'argent, on n'est pas sûr d'avoir un retour d'investissement. Mais spirituellement parlant, ce que nous récoltons est plus grand que ce que nous avons semé. Des fois, avec l'argent, on peut beaucoup investir, on peut beaucoup semer, et on peut tout perdre. Mais spirituellement, quand on sème avec des actions, avec notre comportement, avec notre façon de donner aux autres, il y a toujours la récolte derrière. Nous allons récolter quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous avons semé. Dans la parabole des talents, par exemple, celui qui n'avait rien fait avec son talent a tout perdu. Donc, faisons attention quand nous allons semer pour préparer l'avenir. Faisons attention aujourd'hui à semer afin de préparer la récolte de demain. Troisième point. Soyons prêts à répondre. Soyons prêts à répondre. À répondre à quoi? Bien, Dieu nous donne plusieurs opportunités à répondre avec la vérité, avec un mot d'encouragement, à répondre à certaines opportunités qui vont se produire dans la vie. Il faut que nous soyons prêts. Donc ça veut dire travailler, œuvrer aujourd'hui, se préparer pour ces opportunités, à ne pas rater, parce que si nous ne sommes pas vigilants, nous allons rater certaines occasions, certaines opportunités, et nous ne serons pas prêts à répondre. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4 et verset 5 à 6. Encore ce sujet, cette expression de racheter le temps est employée ici dans ces versets, mais cette fois-ci dans la façon de se comporter, de notre comportement envers les autres. Colossiens chapitre 4 et versets 5 à 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous avons une tâche un peu difficile des fois à faire. C'est la tâche d'utiliser nos mots, d'utiliser nos discussions, nos paroles à encourager, à aider d'autres personnes. Et donc, Paul nous encourage à nous conduire avec sagesse, particulièrement envers ceux qui sont pas peut-être dans l'Église, et de racheter le temps. Ici, on souligne le fait que notre exemple et ce que nous disons, ce que nous faisons, est important aux yeux de ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. On ne sait jamais si nous aurons l'occasion d'aider quelqu'un à voir notre exemple, juste par notre exemple, de nos paroles ou de nos actions, d'aider quelqu'un à voir qu'il y a quand même du bien dans le christianisme ou dans la vérité. On peut être associé, si nos mots sont assaisonnés de sel, on peut être associé avec de bonnes choses. Et dans le même cas, si nos mots ne sont pas si nos mots ne sont pas assaisonnés de sel, si nos mots sont décourageants, sont négatifs, démotivants, nous pouvons être associés avec de mauvaises choses. Donc notre exemple va très loin. Soyons prêts quand on a l'occasion montrer un bon exemple. 1 Pierre 3 et versets 15 à 16. 1 Pierre 3 et versets 15 à 16, quelques versets qui nous expliquent que nous aurons de temps en temps l'occasion même de répondre à des questions par rapport à la vérité, par rapport à la compréhension biblique. Nous, en tant qu'individus, en tant que chrétiens, aurons cette occasion. 1 Pierre 3 et versets 15 à 16. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que, là même où il vous calomine, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Il faut du temps à bien se préparer. Il faut du temps à l'étude biblique. On ne sait pas comment ou quand ce type d'occasion va se présenter. Le type d'occasion d'aider quelqu'un à mieux expliquer une connaissance, une compréhension biblique. Mais c'est à nous à nous préparer en avance pour ces occasions. C'est Dieu de l'autre part, c'est Dieu de l'autre côté qui peut créer ces opportunités, qui peut créer une porte ouverte. Colossiens chapitre 4 encore une fois, mais cette fois-ci au verset 2 à 4. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, Paul était conscient du fait que les frères et sœurs de l'Église pouvaient prier que Dieu ouvre la porte pour la parole. Et en même temps, il était conscient du fait que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui ouvre les yeux, c'est Dieu qui ouvre la porte pour quelqu'un, pour pouvoir, afin qu'il puisse apprendre et comprendre la vérité. Donc, soyons vigilants à ne pas perdre du temps à se préparer, à nous préparer pour ce type d'opportunité. On ne sait jamais où ou quand ce type d'occasion va se présenter. En conclusion, est-ce que Brewster, notre ami Brewster, a été capable de dépenser l'argent finalement? Dans les différentes versions de l'histoire, on voit que Brewster a beaucoup laboré. Face à plusieurs contraintes et l'opinion publique, il n'a pas abandonné la tâche. Il est allé jusqu'au bout en respectant les règles de jeu et il a réussi sa mission. La récompense a été beaucoup plus importante que tout ce qu'il a pu dépenser. Donc, la valeur de son temps passé pendant la période la plus difficile était très importante. La valeur était très importante. Donc, considérant en tant que chrétien la valeur de notre temps, la valeur de chaque jour, chaque moment, chaque opportunité qui va se présenter. Comment passons-nous notre temps? Est-ce que le temps est précieux à nos yeux? Est-ce que nous sommes prêts pour les opportunités qui se présenteront dans ma vie et dans l'avenir? Pour les jeunes, il est conseillé de ne pas gaspiller la jeunesse, même si ce n'est pas toujours facile à attendre la suite. Les mauvais choix de la jeunesse peuvent porter un impact sur la vie entière. Et les bons choix aussi, heureusement. Une chose est sûre, le temps ne passe pas à la même vitesse pour tout le monde, ni à tous les moments dans la vie. Notre perception du temps passé dépend de plusieurs éléments. Donc, efforçons-nous à ne pas gaspiller le temps. La Bible nous aide à comprendre comment faire face à ce sujet nébuleux, l'emploi de temps. Dans la Bible, il y a des explications de la temporalité et de l'éternité. Examinons ces exemples de temps en temps. Examinons les descriptions de l'éternité et de notre grand Dieu qui habite dans l'éternité, et aussi notre façon en tant qu'humain, être humain, d'être limité avec le temps que nous avons. Gardons l'espoir malgré tout, car les jours sont mauvais. L'attente prendra fin un jour. Un jour, toutes ces choses, ces bonnes choses que nous attendons, qui sont des promesses, qui se trouve dans la Bible, toutes ces choses seront réussies, seront accomplies. Ésaïe 25 et verset 9. Ésaïe 25 et verset 9. Un jour, nous allons réjouir du fait que nous n'attendrons plus le salut. Ésaïe chapitre 25 et verset 9. Ésaïe, chapitre 25 et verset 9. En ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons donc dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Soyons prêts, frères et sœurs, en prenant le temps de se préparer et d'être préparé par Dieu, rachetant le temps.